Allez, on va essayer de ne pas perdre de temps, hein, puisque c'est pas tout ça, mais bon, hein, on est tous très pressés. Non, c'est pas vrai. Donc je propose qu'on se présente à vous et à nous, parce qu'apparemment, il y en a qui ne se connaissent pas. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, un peu de sérieux. je vais me prendre des coups d'ici la fin du truc, je pense. Je disais que c'était peut-être pas mal qu'on se présente pour ne perdre pas de temps. Donc je propose de commencer par les dames d'abord. C'est la moindre des choses.
Je suis pas concernée, je suis pas une dame.
Bon, alors, les dames et Nathalie d'abord.
Ouais, bah vas-y.
Je suis pas une dame, moi. Sans déconner, j'ai l'air.
Ouais.
Bon, alors, bonjour.
C'est la magie, t'as mis une apparence.
Ah ouais, c'est ça. Alors, je m'appelle Adrien Thomas, j'ai écrit 3 romans jusqu'ici, 2 romans de fantasy, La Geste du Sixième Royaume et La Maison des Mages, qui est très probablement la raison pour laquelle je suis à cette table ronde. Et je pense, hein, c'est ce qui me paraît le plus logique, ouais. J'ai un doute. Et du coup, j'ai écrit aussi Notre-Dame des Loups, qui est une histoire de cow-boy qui chasse des loups-garous, c'est peut-être pour ça aussi.
Voilà.
Non, c'est moins logique. Voilà, je vais passer la parole à mon voisin.
Estimé voisin. Du cadeau, collègue.
Bonjour, alors moi je m'appelle Pierre Goulon, j'ai écrit 7 romans, enfin 6 romans et il y en a bientôt un qui va paraître. Donc j'ai commencé par du polar thriller et ensuite j'ai enchaîné avec une trilogie d'Horic Fantasy, Blizzard. Voilà. Et donc voilà, je vais passer donc la parole à ma voisine.
Bonjour à tous, merci d'être si nombreux pour cette table ronde que nous n'avons pas le plaisir d'animer, mais bon, c'est pas grave. Donc moi, c'est Nathalie Do, ça fait depuis très longtemps que j'écris des livres. Il y a toujours de la magie dans mes livres, mais plus particulièrement dans Source des Tempêtes, où elle a un rôle primordial, et c'est pour ça qu'on m'a proposé de participer à cette table ronde. Cindy, à toi.
Yeah. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, je suis Cindy Van Wilder, j'ai fait donc, la saga des Outrepasseurs. Je ne peux plus vraiment dire trilogie, puisque un tome 4 spin-off a été annoncé. Et bien sûr aussi de Memorex, le dernier opus chez Gulfstream. Hello Angela, qui vient d'être publié. Je suppose que c'est quand même pour les Outrepasseurs que l'on m'a invité à cette table ronde, mais au cas où, je vous le dis quand même. Voilà, maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur la magie magicien? Je sais pas, maintenant, allons-y, tant qu'on y est.
Total impro, c'est parti.
Hey. Ah non, les tours de magie, désolé, mais c'est réservé après une certaine heure. Faudra repasser.
Ça marche.
Quoi, moi?
T'as pris la parole en premier, vas-y.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, pourquoi? Ce qui m'intéresse dans la magie, c'est que c'est... En fait, moi, j'ai une formation de scientifique. Je suis biologiste à la base. J'ai travaillé sur comment fonctionne la vie, comment fonctionne l'évolution, comment les choses s'imbriquent et s'agencent pour donner des résultats logiques et réfléchis. Et la magie, c'est complètement l'opposé de ça. C'est-à-dire que c'est une violation complète des lois naturelles, physiques, temporelles, que je trouve très intéressante du coup et que j'aime beaucoup mettre en scène parce que ça me permet d'aller de dépasser la partie logique et de pouvoir m'évader vers des niveaux et si c'était possible, bah oui c'est possible, il n'y a qu'à mettre de la magie. C'est ce qu'on appelle en jeu de rôle et en fantasy le ta gueule c'est magique. Voilà. Qu'on essaye quand même d'éviter en littérature parce que c'est quand même pas très correct vis-à-vis du lecteur d'écrire une histoire qui, même s'il y a de la magie dedans, ne se tient pas, et de faire venir d'un coup un grand méchant qui défonce tout le monde ou un deus ex machina qui sauve tout le monde au dernier moment, c'est un ta gueule, c'est magique, et c'est un peu se foutre de la gueule du lecteur. Et on essaye d'éviter, même si la magie le permet, ça n'empêche pas qu'il y a certaines règles qui doivent tenir le coup et qui doivent aider à ça.
Valérie, t'es le maillon faible, tu sors.
Je vous propose un... Un tonnerre d'applaudissements pour notre modératrice.
Oui.
En fait, c'est mon deuxième retard de la journée. Je fais que pour être applaudie quand j'arrive.
Du coup, on est désolé, on a commencé sans toi.
Voilà. On s'est présenté.
Parfait, continue.
Là, il répond à une question du public.
Du coup, moi, j'ai fini, donc à vous.
Navré, on m'a alpagué à l'issue de la précédente table ronde et je n'ai pas pu m'échapper. Ouh. Mage, magicien, magie entre le bien et le mal. Bon, c'est la bonne table ronde. Ça va. Non, c'est pas sur ce sujet-là. Alors, est-ce que vous êtes prêts à donner clairement une définition du bien et du mal? Ou bien est-ce qu'on peut plutôt parler d'une explication un peu ambivalente? Est-ce qu'il y a un bien, est-ce qu'il y a un mal? Est-ce que vous êtes dans cette vision manichéenne du monde ou est-ce que ce n'est pas tout à fait ça? Adrien.
Alors.
Il aime parler, Adrien. C'est
toujours les questions difficiles en premier. En plus, je ne peux même pas m'appuyer sur ceux des copains pour rebondir en disant oui, comme a dit. Alors. Pour moi, c'est un peu un mélange des deux. Je considère qu'il y a plus ou moins une échelle de bien et de mal, des choses qui sont absolument bien, des choses qui sont absolument mal, et une énorme partie entre les deux qui dépend du point de vue duquel on l'observe. En fait. J'ai plutôt tendance à penser que sur une échelle de 1 à 100, le mal c'est 0 à 10, le bien c'est 90 à 100, et tout ce qui est au milieu, ça dépend du point de vue. Il y a des choses qui sont absolument mal, genre tuer des chatons, c'est mal, par exemple. Je suis désolé, c'est comme ça. Il n'y a pas de raison logique, il n'y a pas d'explication possible pour... tuer un chaton soit quelque chose de bien. Sauf si le chaton est maléfique, possédé par un démon, bref, on peut aller très loin. Et il y a des choses qui sont extraordinairement bien, par exemple, acheter mes livres.
LOL.
Voilà. Et tout ce qui est au
c'est
milieu...
C'est direct au paradis.
route direct, autoroute pour le paradis.
Hein. I wait to hell, je te rappelle.
Et du coup, tout ce qui est au milieu, c'est plutôt de l'ordre du point de vue. C'est-à-dire qu'on peut être fanatique d'un point de vue qu'on juge comme étant bien pour l'humanité, bien pour tout le monde. Mais quelqu'un en face peut très bien retourner de A à Z l'argument contre soi ou considérer que c'est au contraire très mauvais. Et, du coup, je pense que le bien et le mal, c'est pas si simple que ça à catégoriser.
Pierre.
Alors, en ce qui concerne le bien et le mal, je pense, dans Blizzard en tout cas, j'ai pas cette notion-là, elle n'est pas clairement définie. La plupart en fait, des protagonistes oscillent un peu entre les deux. C'est-à-dire que souvent, il y a pas mal de retournements de situation dans ce roman, et souvent, ceux qu'on pensait être mauvais sont en fait les bons et inversement. Donc, ouais, pour moi, c'est un peu comme tu le disais, en fait. Hein, tu vois, moi, je reprends ton argument. Effectivement, il y a tout dépend effectivement du point de vue. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie où on a l'impression effectivement qu'ils sont mauvais. En fait, ils sont bons. Donc oui, il y a pas pour moi, c'est pas clairement défini.
Point de vue aussi. Hein. Pour vous, Cindy.
Alors, comme l'a dit Adrien.
Je sens que c'est un gimmick.
Pas du tout. Donc en fait, moi, je préfère aussi exploiter le point de vue non seulement du personnage sur lequel je vais me concentrer, de voir un petit peu comment lui ou elle va définir ses actions, mais aussi j'ai aussi envie de faire participer le lecteur. Ce qui m'intéresse donc dans le traitement des personnages, c'est pas vraiment de dire directement au lecteur, voilà, ça c'est le camp des gentils, ça c'est le camp des méchants. Personnellement, j'ai envie qu'il fasse aussi sa propre opinion, et surtout, petit plaisir d'auteur, qu'elle puisse changer au fil des pages.
Nathalie.
Alors pour moi, le bien et le mal ne sont pas du tout les deux extrêmes d'un axe. Pour moi, ils sont absolument partout et ils existent en même temps à peu près partout. C'est-à-dire que quelque chose qui va être très bien pour un individu peut en même temps causer le malheur d'un autre individu et inversement. Alors le point de vue qui varie selon qui raconte ça, on le sait tous, hein, on le voit en histoire, on le voit même dans l'actualité, hein, Manuel Valls il pense que le 49-3 c'est vachement bien et que la loi au travail c'est vachement bien, bon on est un certain nombre à pas du tout être d'accord, pour nous c'est mal, mais voilà, c'est pour ça un peu qu'on est en train de se disputer, voilà, donc c'est plus la confrontation des points de vue qui finalement va créer le malheur de tout le monde, donc c'est peut-être la confrontation qui est le mal. Peut-être que le bien, ce serait qu'on se mette tous d'accord de s'aimer les uns les autres. Ce serait pas mal. Et puis d'être solidaires. Enfin, voilà. C'est comme ça que je le ressens.
Vaste programme. Est-ce que pour justement trouver comment comment le bien et le mal se définissent ou en tout cas s'organisent dans vos romans. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente la magie dans vos romans? Est-ce que c'est pouvoir, devoir, savoir, noir, rien à voir?
Armoire.
On admire la rythme.
Est-ce que, j'ai dit noir parce que magie noire. Mais est-ce que magie noire c'est le mal et est-ce que magie blanche c'est forcément le bien?
Ça, alors, c'est... En tant que mage noir dans Final Fantasy XIV, non, le noir n'est pas forcément mauvais. Hein.
Alors, voilà, parlez-moi de la magie et de ce qu'elle produit, plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas, s'il y a un haut et il y a un bas.
Alors moi, je suis assez partisan de la vision des choses de Voldemort, qui considère qu'il n'y a pas de bien et de mal en magie et que c'est simplement un pouvoir et il y a ceux qui sont dignes ou pas de l'utiliser. Donc c'est quelque chose qui est relativement vrai, à mon avis, d'un certain point de vue. On peut l'utiliser pour le bien ou pour le mal, mais le pouvoir en tant que tel n'a pas de couleur, à mon sens.
Vous voulez dire qu'il faudrait être un sang pur pour pouvoir utiliser...
Je ne vais pas jusque-là.
Ah, hein, merci.
Hein, j'ai pas envie de me faire lyncher. Mais non, je...
Parce que là, les moldus, il y en a un paquet, je pense, quand même.
Mais non, je considère par contre que la magie est une sorte d'outil en fait et que c'est une sorte, ça peut être une arme, ça peut être un élément destructeur ou constructeur, ça peut être guérisseur, ça peut et accomplir énormément de choses pour violer les lois qui sont des fois pénibles comme la guérison par exemple. On peut passer un coup de magie et puis changer une plaie en une simple cicatrice, c'est quelque chose qui est considéré comme quelque chose de bien.
Sauf si ça pourrit à l'intérieur de la cicatrice. Voilà.
Ou sauf si c'est le mec qu'on est en train de soigner, c'est Hitler. Bon, on ne peut pas tout avoir. Mais voilà, ça dépend de la volonté de la personne qui est derrière, d'agir en bien ou en mal. Mais à mon avis, la magie en tant que telle, j'ai du mal à considérer que la magie, qui pourrait une sorte d'énergie, puisse avoir une éthique, en fait. Moi, je n'arrive pas à le considérer comme ça. Et dans mes romans, j'essaie d'éviter de faire en sorte que la magie est une éthique. La magie est un
outil,
une énergie qui est utilisée en bien ou en mal.
Pierre, est-ce qu'il en va de même dans votre système de magie?
Oui, exactement. D'autant plus qu'en fait, moi, la magie, je l'avais considérée... pour moi, c'est un peu le nucléaire dans Blizzard. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est capable de faire des très bonnes choses, mais est capable aussi de faire des choses extrêmement mauvaises. Et effectivement, dans Blizzard, tout ce que fait la magie, même si c'est quelque chose de bon, ça va toujours se retourner contre celui qui l'utilise. Et je dis effectivement
parce qu'il y a un prix ou
il y a un prix, voilà, il y a un peu un prix à payer. Alors pourquoi je dis que ça ressemble dans mon monde au nucléaire? Parce que on a un monde qui s'appelle l'enfer des mages dans Blizzard, qui est les termes sont assez explicites, irradié par la magie. Et dans ce monde sont nés les ersatz, qui est une sorte de sont des personnages qui sont des mi-hommes, mi-animaux. Donc, qu'on peut retrouver, c'est un peu le Tchernobyl de Blizzard. Et il n'y a pas que ça, effectivement. Blizzard, dans le tome 2, je ne vais pas faire de spoil, mais il va être utilisé comme une arme de destruction massive. Sachant que c'est un peu que Blizzard, en fait, on reprend un peu, si vous voulez, on reprend, selon moi, les deux guerres mondiales à travers ce roman. Ça peut faire penser à Nagasaki, effectivement. Et il y a pas ça. Tout est vu par ce prisme-là. C'est-à-dire que, par exemple, l'hiver surnaturel qui existe dans Blizzard, pour moi, ça peut un peu ressembler à un hiver nucléaire. Voilà. Donc, effectivement, tout est vu pour moi dans cette optique-là.
Cindy, quel est votre système de magie et vers quoi tend-il?
C'est simple. En fait, il n'y a aucun système. Donc, dans les autres passeurs, en fait, j'ai fait de la magie une force brute qui est en relation directe donc avec le peuple de féerie, les fées, non pas fées eux, mais fées, j'insiste, et qui en fait détiennent, si on peut dire, un pouvoir tout puissant, puisque ce sont les seuls à pouvoir manier la magie. Et qui s'amuse, bien entendu, comme dans les légendes traditionnelles, à tourmenter les hommes avec. Sauf que, bien sûr, ça va se retourner contre eux, grâce à plusieurs péripéties que je ne vous décrirai pas ici, parce que quand même, ce serait un peu trop long. Et voilà, je vous laisse deviner la suite.
Nathalie.
Alors, pour moi, la magie est très importante, enfin très présente dans mon monde, puisque les êtres humains sont catégorisés selon le fait qu'ils aient ou pas de la magie. Donc, on a un petit groupe, ce sont les réfractaires, ils ne peuvent pas pratiquer la magie et ils ne peuvent pas être affectés par elle. Donc, du coup, c'est eux qui vont plutôt essayer de trouver des technologies plutôt médiévales. Hein. Je pars pas dans la technique moderne. Donc, pour pouvoir résoudre les problèmes du quotidien, donc un réfractaire, il veut faire chauffer de l'eau pour se faire une tisane, il va mettre une bouilloire sur le feu. Ensuite, vous avez les minimes qui ont un petit peu de magie, mais bon, pas tant que ça, pas assez pour que ce soit vraiment une pratique, un métier pour eux. Donc, eux, ils veulent faire chauffer de l'eau pour le thé, ils vont en général mettre leurs mains sous la bouilloire, utiliser leur volonté pour. Parce que la magie chez moi, c'est la volonté qui va contrôler les courants électriques et magnétiques qu'on a à l'intérieur du corps. Ça m'est venu en fait en voyant en pleine nuit les étincelles d'électricité statique que je produisais parfois après avoir caressé un chat puis touché une couverture en acrylique. Donc ça m'a toujours fasciné ces choses-là.
Vous pouvez le faire chez vous, c'est pas dangereux.
Voilà, c'est pas dangereux. Et surtout caresser un
chat.
Vous
êtes tous magiciens.
Exactement. Et je vois la magie d'ailleurs dans sa manifestation davantage comme on peut le voir en Extrême-Orient avec le ki, ou même la cosmo-énergie des chevaliers du zodiaque. C'est d'un seul coup on a une énergie avec des couleurs qui va se déployer. Et je visualise ça comme ça. Et ceux qui sont capables de ça chez moi, c'est les mystiques. Alors évidemment, ils sont pas non plus super répandus. Il y a un petit groupe de mystiques, un groupe relativement important de réfractaires et une grosse majorité de minimes. Voilà. Et donc, c'est on la contrôle plus ou moins bien, puis elle fait vraiment partie du quotidien. Il n'y a pas de baguette, il n'y a pas de formule, il n'y a pas tout ça. Voilà.
C'est simple, c'est facile, il suffit de faire bouillir de l'eau.
Voilà, par exemple.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que généralement, dans les romans, les mages et les magiciens, alors c'est sans doute pas très vrai chez Cindy, mais les mages sont des sujets. Est-ce qu'ils sont des sujets ou des maîtres de leur destin? Ou bien est-ce qu'ils sont des outils, ce qu'on disait tout à l'heure avec Adrien, au service d'un personnage plus important, un roi, un prince à faire monter sur un trône? Est-ce qu'ils sont donc des sujets ou est-ce qu'ils sont des objets au service d'un personnage ou d'une cause? Est-ce que vous pensez qu'il y a une permanence comme ça du rôle du magicien? Je pense qu'on peut voir par exemple Merlin de façon différente. Il est sujet de sa propre destinée parce qu'il lui arrive des choses en dehors d'Arthur, mais il est aussi l'outil d'Arthur pour pas mal de choses. Alors est-ce que vos personnages sont des sujets ou des objets?
Alors moi je suis parti du principe que quand un mec est capable de balancer une boule de feu d'une pensée, il n'y a pas grand monde au-dessus de lui. Donc,
le super pouvoir de la boule de feu.
Voilà, généralement, je pars du principe que les sorciers et les magiciens dans mes romans sont le plus souvent en roue libre. C'est-à-dire que c'est eux les tauliers, c'est eux qui décident. Ils se rassemblent entre eux pour poursuivre le savoir, la magie, etc. Ils peuvent même parfois essayer de prendre le pouvoir. S'ils se mettent au service de quelqu'un, c'est au service d'un sorcier plus puissant qu'eux. Et beaucoup plus rarement au service de quelqu'un qui a une simple puissance politique, alors que s'ils ont envie, ils marmonnent trois formules magiques et puis machin, il est mort, quoi. Donc j'ai tendance à toujours voir la magie comme quelque chose d'extrêmement puissant. Ça dépend comment c'est mis en scène. La magie peut être faible dans certaines occasions, peut avoir simplement des effets très très réduits. C'est le cas dans Notre-Dame des Loups, qui est plutôt fantastique, où la magie est très très anecdotique et n'est pas ultra puissante et n'est pas capable de tout et n'importe quoi. Dans La Maison des Mages et La Geste du Sixième Royaume, la magie est une force qui est détenue seulement par des petits groupes, pas évidemment, mais qui ne jure allégeance que, en gros, au chef de leurs propres ordres, en fait, et beaucoup plus rarement à d'autres personnages.
Vous, Pierre?
Oui.
Sujet, objet, bon, sujet.
Moi c'est clairement des dieux en fait, les mages. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de, enfin ceux qui les maîtres ont tellement de pouvoir que il y a rien au-dessus d'eux. Et c'est eux-mêmes décident effectivement même plus que leur propre destin. Ils décident carrément du destin de l'humanité dans son ensemble. Quand un mage décide d'intervenir, il peut à lui seul détruire des armées de milliers de personnes en un battement de... Donc c'est clairement des dieux pour moi.
Okay. On n'a pas envie de rencontrer vos mages, Pierre.
Ils ne sont pas très sympas.
Ok. Cindy, les sujets qui utilisent la magie chez vous, ils sont en même temps au sommet de la chaîne et pas tout à fait ?
Absolument. Donc, j'ai pas vraiment de mages ou de magiciens. Bon, comme je le disais, j'ai des fées qui sont vraiment des êtres de magie pure. J'en ai fait, surtout dans le premier tome, on explore surtout le monde des premiers-nés, ceux donc, qu'on connaît tous par leur nom. Et qui sont vraiment des êtres qui détiennent la toute-puissance, qui sont définitivement sujets de leur destinée, mais qui sont en même temps contrôlés par tout un ensemble de lois, mais qui sont des conséquences directes donc, de leur pratique de la magie. Donc, quelque part, je ne vais pas dire qu'ils sont objets soumis à quelqu'un en particulier, mais qui sont un petit peu, ce que j'aime faire d'ailleurs dans mes personnages, autant victimes que maître d'eux-mêmes, en fait.
C'est comme pour Monk, en fait. C'est un don et une malédiction. Voilà. Donc, c'est la même question pour moi.
Oui.
Ah, je suis douée. Vous avez vu mes pouvoirs magiques. Voilà. Chez moi, les mystiques sont essentiellement liés à la religion. Au départ, ils sont tous prêtres. Chaque ordre lié à un dieu... à ses prêtres, ses servants. Et il y a un 13e ordre qui, lui, est lié à l'équilibre, puisqu'ils sont répartis entre loi et chaos. Et le 13e ordre qui, lui, était lié à l'équilibre, on lui a dénié le nom de prêtre, parce qu'ils n'ont pas de temple et ils ne font pas de prosélytisme. Donc, et puis ils refusent de s'incliner devant les 12 dieux des autres. Alors, eux, ils considèrent que l'équilibre, c'est le tout et que donc il ne faut pas choisir un parmi les autres, il faut tout aimer. Et alors donc, comme on leur a dénié le titre de prêtre, on les a appelés des mages. Parce que dans l'esprit des mystiques de ce monde, mage, c'est inférieur à prêtre. Et évidemment, les prêtres, je les ai conçus un peu comme l'était le druide dans la société celtique. C'était le seul qui avait le droit de parler avant le roi. Et c'était le conseiller du roi. Donc là, c'est un petit peu différent dans le sens où il n'y a pas des mystiques qui sont auprès des rois, vraiment dans la salle du trône ou dans la salle du conseil. Mais ils considèrent que tous les sous-souverains, enfin tous les rois, etc., sont leurs bras armés. C'est-à-dire quand je rejoins Pierre, c'est-à-dire que la magie chez les servants suprêmes, les mystiques les plus puissants, elle peut être tellement puissante qu'elle peut effectivement causer des dégâts équivalents à une bombe atomique. Donc du coup, comme ils ont pas non plus envie de détruire la planète, c'est pas leur but. Ils préfèrent régler leurs conflits au travers des réfractaires qui souvent sont des guerriers. Voilà, donc après, évidemment, ça peut leur arriver. Il leur arrive souvent aussi d'utiliser leur pouvoir, mais ils essayent quand même toujours de contrôler et de réfréner l'intensité de ce qu'ils pourraient être. Et c'est plus le fait de savoir qu'ils en sont capables qui va leur donner du pouvoir sur les autres que la manifestation réelle de ce pouvoir. Voilà.
Et est-ce que ce qui m'interroge quand on parle des mages et des magiciens en général, c'est que qu'ils soient dans le bien ou qu'ils soient dans le mal, qu'ils soient bien intentionnés ou mal intentionnés, il y a toujours autour d'eux une aura de mystère. Est-ce que cette aura est indispensable ? Est-ce que c'est toujours le mage, cet inconnu ? Est-ce qu'on ne peut pas être mage en pleine lumière ? Est-ce que vous considérez que la magie, c'est quelque chose qui doit être caché, qui doit être fait secrètement. Est-ce que, un peu comme les magiciens de notre univers, on ne peut pas révéler les secrets parce que sinon le tour perd de son intérêt ?
Alors c'est exactement la thématique de la Maison des Mages, en fait. C'est en fait le fait que jusqu'au début de la Maison des Mages, la magie est considérée comme justement quelque chose d'extrêmement secret, qui est réservé à un ordre de femmes, vierges, soumises à un certain nombre de critères ultra stricts et forcées de consommer de la drogue. Pour avoir accès à la magie. Et il se trouve que dans la Maison des Mages, on observe l'émergence de la force opposée, qui est de démocratiser la magie, sans toutes les règles aussi inutiles que stupides de l'absorption de drogue ou de la virginité.
Ah, j'allais dire, on n'est plus obligé d'être vierge.
Non, on fait ce qu'on veut. C'est ouvert aux hommes comme aux femmes, c'est très démocratique, c'est simplement c'est de l'acquisition de savoir qui permet ensuite d'avoir accès à la magie et de l'utiliser en plus, et pas uniquement pour la recherche du savoir et du pouvoir comme le faisaient les sorcières, mais pour le bien-être de l'humanité. C'est-à-dire que les mages vont commencer à se faire se balader des golems dans les rues pour assurer la sécurité, ils vont commencer à apprendre à lire et à écrire aux gamins, ils vont conseiller les rois sur les meilleures orientations possibles, ils vont renforcer les forces armées, enfin, ils vont faire énormément de choses pour assurer la survie de l'humanité et la soutenir en fait. Et donc c'est effectivement deux points de vue ultra opposés. Les sorcières sont évidemment absolument pas fans de l'émergence de la Maison des Mages.
Et trop de concurrence.
Trop de concurrence. Et du coup, le roman s'ouvre sur l'explosion d'une des maisons des mages suite à un gros attentat magique. On se demande qui a fait le coup.
Est-ce que les CRS ont été prévenus sur les attentats magiques?
Ils étaient dedans.
Cindy?
Moi, je pense que de toute manière, c'est un peu aussi les thématiques de tous les romans, enfin, la plupart des romans qui traitent de magie. Est-ce que la magie doit rester secrète? Est-ce qu'elle doit être ouverte à tout le monde? Et donc, au risque, quelque part, que tout le monde s'en empare, tout le monde ait du pouvoir, et de là, part un petit peu dans l'anarchie. Ou que ce soit en fait le seul fait d'une élite, et que de ce côté-là, on ait vraiment le risque d'une dictature et d'une oppression. Toute ta question est là. Personnellement, donc, j'ai fait, sans grande surprise, le second choix via les outrepasseurs, qui sont donc des êtres un petit peu d'apparence comme vous et moi, mais en fait, ils sont bien plus que cela. Et qui, en fait, depuis des siècles et des siècles, contrôlent le monopole de la magie, du moins jusqu'à une certaine période.
C'est tellement difficile de parler du roman de Cindy sans trop en dire.
C'est terrible. Hein,
c'est vraiment, c'est vraiment un livre qu'il est, d'abord, que je vous conseille tous, vraiment. Et c'est vraiment peut-être plus que pour tous les autres que j'ai lus aussi. On peut rien vous dire. C'est bien. On peut rien vous dire. Et son approche de l'univers et de la magie ne se révèle qu'au fur et à mesure. Donc, ça serait dommage de vous en dire plus. C'est pour ça qu'elle est. C'était un petit peu pour expliquer pourquoi elle éludait un peu certaines de
ah oui, des questions. Après, on dirait encore que je fais du teasing. Hein.
Maintenant, Pierre, vous n'avez pas répondu à cette question. Est-ce que vous pensez que c'est secret, pas secret? Est-ce que c'est important que ça soit secret?
Non, c'est en fait le problème dans Blizzard vient du fait que cette magie était secrète. C'est-à-dire que tout le problème est venu du territoire qui a été irradié. Et de là, enfin, tous les problèmes sont venus de là parce que justement on a laissé trop de liberté à ces mages qui jouaient un peu à Dieu dans ce territoire et qui ont créé une armée qui a dévasté le monde. Et donc il faut que cette magie soit cadrée plus que. Il faut justement qu'elle reste plus secrète. Et c'est pour ça que dans le tome 3, il y a carrément eu les clauses des guerres madrières qui sont établies. Et vous avez un traité, vous avez le traité de Madre, en fait, avec tous les articles. La magie doit être utilisée comme ça, comme ça. Donc elle doit être. Elle est secrète, mais son but n'est pas de l'être. Secrète. Justement, ça doit être de dévoiler ses secrets pour le bon déroulement du monde. Sinon, on a les mages sont considérés comme des watchmen qui gardent les secrets de l'humanité.
Est-ce que les mages, c'est dans vos univers fantasy, les super-héros, plein de super-pouvoirs de l'univers du comics en général? Est-ce que vous pouvez les comparer?
Oui, il y a un petit côté Ororo, Tornade, chez certains.
Ça, j'aime bien.
Bah oui. Voilà, bon, c'est... Mais sinon, je n'ai pas répondu pour le coup du secret.
Pardon, Nathalie.
Je t'en prie. Juste de dire que la magie, enfin, ils sont pas du tout secrets. Hein. Ils ont des temples dans toutes les villes. Il y a des maisons mystiques. C'est vu que c'est lié à la religion, donc il y a les pratiquants. Hein. Et il y a deux moyens de devenir mystique. Il y a la voie restreinte qui est en fait ouverte à tout le monde. À partir du moment où on a suffisamment de drac, c'est l'énergie magique. On va suivre son apprentissage de mystique tranquillement dans un temple, etc. Et c'est ouvert aux deux sexes. Et ensuite, il y a le séminaire qui, lui, malheureusement, exclut les femmes. Et donc, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que c'est une des problématiques du tome 2. Donc,
tout le monde dit.
Donc voilà, c'est gros teasing. Mais même au niveau du séminaire, les élèves n'ont pas le droit de raconter dehors ce qui s'y passe, pas parce que la magie est secrète, mais parce que les conditions d'apprentissage ne font pas forcément honneur aux professeurs. Voilà.
Ça pourrait décourager les élèves volontaires.
Oui, ou ça pourrait aussi inciter des gens à fermer l'école pour maltraitance.
Alors, justement, pour revenir à la thématique du bien et du mal, est-ce qu'on ne peut pas se demander si finalement on met tout ça derrière soi quand on est mage ou quand on est magicien, et est-ce que ce n'est pas le but qui finit par compter bien plus que les moyens ? Est-ce que pour les magiciens, ce n'est pas un petit peu l'application permanente du proverbe « la fin justifie les moyens, l'important c'est d'y arriver »
Oui, c'est beaucoup ça. Enfin, moi, les sorciers et magiciens que je mets
que
en scène...
Que je fréquente
Mes amis, donc. non, en fait, je les visualise beaucoup comme des scientifiques, en fait. C'est dû à mon bagage scientifique. Je les vois comme des chercheurs en magie, en fait, la plupart du temps. Des gens qui cherchent à repousser les limites de la magie, repousser les possibilités qu'offre la magie, et qui sont beaucoup dans la recherche, et du coup forcément un peu dans la séclusion, dans le fait de se renfermer un peu sur eux-mêmes. Mais qui,
vous
du
êtes
coup,
fasciné par Albert Einstein, c'est ça hein.
Exactement, Albert Einstein avec une baguette magique, c'est la classe. Dans le but pour moi de la magie, vu qu'elle est très 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 inconnue, très très difficile à cartographier, à catégoriser, c'est de l'explorer au maximum. Et donc du coup, c'est ce à quoi ça donne la plupart des mages et des sorciers dans mes univers. Et donc du coup, il leur arrive du coup en conséquence de perdre de vue le monde qui les entoure, de considérer que le savoir est plus important que son application, que le pouvoir n'est qu'un moyen d'arriver à davantage de savoir et vice versa. Et que c'est une sorte de serpent qui se mord la queue, qu'on obtient plus de pouvoir pour pouvoir mener des recherches plus difficiles, qui permet d'accéder à plus de savoir, qui permet d'accéder ensuite à plus de pouvoir, et qu'au final
ça va mal finir.
Ça peut mal finir parce que du coup l'éthique finit par se dissoudre face aux problématiques qui arrivent face à la magie. La magie est plus intéressante à étudier que les petits problèmes des uns et des autres, et savoir que un tel enfant est malade ou qu'un abruti veut égorger un chaton, on s'en fiche, parce que l'important c'est de savoir comment on fait des plus grosses boules de feu. Voilà.
Est-ce que justement votre questionnement quand vous écrivez sur des personnages aussi puissants avec aussi peu, on va dire pas de scrupules, mais en tout cas avec une moralité de notre point de vue, en tout cas un peu floue et variable. Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous questionnez l'éthique, la justice, la morale? Est-ce que c'est des choses qui vous motivent pour écrire? Est-ce que c'est des interrogations que vous avez? Est-ce que c'est un reflet des questions que vous vous posez sur là où on vit nous? Ou est-ce que vous partir en fantaisie et n'en parlons plus, il n'y a aucun rapport.
Moi, j'y vais franco, c'est-à-dire que je m'interroge, mes magiciens sont, les magiciens font à la fois de la magie, de la mécanique, de la biologie, ils sont capables de clonage, ils sont capables de d'effacer la mémoire des gens, ils sont capables de faire beaucoup de choses que l'éthique et que la technique peut permettre et que l'éthique ne permet que moyennement. Et oui, je m'interroge pas mal là-dessus dans mes romans, justement, je trouve ça un minimum intéressant de rappeler des questions de société. Et si c'était possible, la magie le rend possible, donc maintenant on va y réfléchir.
Ok, il y a un magicien en colère dehors qui voudrait qu'on arrête de parler. Bon. Pierre, est-ce que vous vous questionnez aussi? Je pense, enfin, bizarre, ça me semble très questionnant sur notre monde.
Oui, parce que c'est effectivement un reflet, comme je disais dans une autre table ronde, c'est un peu un reflet de notre société par un miroir déformant. Le meilleur exemple, c'était dans une chronique de monsieur qui est là-bas, justement, qui disait qu'il y avait une sorte de rétronymie sur les guerres mondiales. C'est-à-dire que dans Blizzard, vous dites les premières guerres madrières, alors que les deuxièmes ne sont pas encore arrivées. Mais parce qu'en fait, c'est une inversion de notre système. C'est-à-dire que dans Blizzard, moi, je l'ai conçu comme ça, les guerres de l'environnement, qui sont les deuxièmes guerres dans Blizzard, représentent en fait la première guerre mondiale. Et inversement, les guerres madrières sont la première guerre mondiale. Donc effectivement, moi, il y a une inversion de la deuxième, pardon. Ouais, je me suis emmêlé. Et effectivement, il y a tous ces questionnements. On a par exemple le faucon. Il y a tout qui est symbole en fait dans Blizzard. Et je pense que si on ne voit pas ce côté-là, on passe à côté de beaucoup de choses dans ce roman. Si on ne le voit que comme un roman choral avec de l'action, on loupe beaucoup de choses.
Alors renseignez-nous sur les symboles qu'on peut y trouver. Ben,
tout simplement.
On loupe rien.
Ben, j'ai déjà parlé tout à l'heure effectivement de la magie vue comme le nucléaire. Si on prend par exemple le symbole du faucon, par exemple, quand on sait qu'il est que c'est le symbole du grand méchant, le grand méchant qui est le grand dictateur qui est Vanel, l'inquisiteur dans Blizzard, on peut peut-être le rapprocher à un animal de proie plus connu de notre monde contemporain. Il y a beaucoup de choses comme ça. Quasiment toutes les scènes en fait sont symboliques de quelque chose.
Nathalie, Cindy, laquelle veut commencer?
On parlait tout à l'heure, tu as évoqué donc les super-héros. Personnellement, on pourrait dire, pour caricaturer un petit peu le trait, du moins dans Les Outrepasseurs, que ce sont un petit peu les super-méchants qui ont gagné. Mais je pense qu'au-delà de ce premier ressenti, oui, c'est la question de l'éthique, de la morale, de ce qui est bien et mal, est un fil rouge au travers donc de la saga. C'est vraiment de dire, est-ce que réellement il fallait une élite qui soit en même temps un garde-fou pour empêcher qu'il y ait d'autres victimes, par exemple de la magie? Ou est-ce qu'il fallait vraiment que le peuple originel qui la manipule soit laissé libre, d'agir à sa guise? C'est un petit peu donc le questionnement qui revient en fil rouge au fil de cette saga.
Alors les questions éthiques, les questions de société qu'on peut trouver dans notre monde, je pense qu'elles sont un peu intemporelles, qu'on n'a toujours pas résolu des problématiques. Par exemple, le racisme, ça a toujours existé malheureusement, et on aimerait bien que ça n'existe plus, mais on est encore confronté à ça. Et mine de rien, dans nos ouvrages, on l'évoque aussi. Alors ça ne va pas être le même. Par exemple, chez moi, ce sont les Rives, qui sont un peuple qui n'est pas humain. Et parce qu'il ne peut pas se reproduire avec les humains, les humains estiment que du coup, ils sont inférieurs à eux, et donc on va les réduire en esclavage, on va même les traiter comme du bétail, dans le sens où leur sang ayant des effets de filtre de jouvence sur les êtres humains, on les élève et puis on vole leur sang. Donc, des fois, on les tue directement. Allez hop, une fois qu'ils ont donné leurs 5 litres. Parfois, on va les emmener en esclavage et puis les nourrir pour avoir un approvisionnement régulier. Ils ont aussi une sorte de charisme qui fait que les êtres humains les trouvent particulièrement séduisants. Donc, en plus, on va en faire des esclaves sexuels. Et puis, comme ce n'est pas des humains, pour ceux qui ont envie de... ceux qui ont des pulsions homosexuelles dans la partie de la société qui l'interdit, parce que c'est pas comme ça partout, ils vont contourner l'interdit en prenant des esclaves rives hommes et puis mâles, et donc ils sont pas homosexuels puisque les rives sont pas des hommes, donc ce peuple s'en prend vraiment plein la tête et uniquement donc ces questions d'éthique.
J'allais dire que toute ressemblance avec une situation ayant réellement existé est fortuite.
Il y a toujours des proximités, hein. Ça c'est clair. Voilà, donc du coup, bien sûr que les situations qui posent problème dans la société d'aujourd'hui, pour l'humanité en général, on les retrouve dans nos ouvrages en général. Et puis après, chacun va les exploiter à sa façon et essayer d'y apporter ou pas des réponses.
Alors, dans l'univers de Nathalie, on l'a compris, la magie est plus ou moins bien répartie chez les gens, mais en tout cas présente pour tout le monde. C'est peut-être une question qui va moins vous concerner. Mais moi, je me dis toujours, est-ce que dans un univers où tout le monde n'a pas ce pouvoir, est-ce que faire de la magie, ou maginer, je ne sais pas, il faut qu'on invente un verbe, est-ce que maginer, c'est pas un peu tricher? Est-ce qu'être un mage, c'est pas être un peu automatiquement, quand tout le monde n'a pas ce pouvoir-là, un tricheur? On voit toujours, on a tous envie de recevoir notre lettre de Hogwarts, hein. Bon, pour certains c'est un peu tard, mais on a tous un peu envie d'être plutôt un magicien qu'un moldu. Mais est-ce qu'on n'est pas, est-ce que c'est pas, c'est donc décrit de façon très positive dans plein de situations, chez vous on le voit que un peu moins, mais quand même, être quelqu'un qui détient ce pouvoir supplémentaire par rapport aux autres, c'est pas quelqu'un qui, en permanence, est amené à tricher par rapport au quotidien de chacun.
Alors, je me souviens d'avoir lu un texte sur Internet il y a très longtemps de quelqu'un qui s'essayait à l'écriture et que je trouvais très intéressant parce qu'il décrivait un duel de magie où, en fait, l'un des deux magiciens réalisait qu'il était beaucoup moins puissant que l'autre et, en gros, se contentait d'esquiver ses sorts pour lui coller un coup de dague dans le menton.
Et voilà, pragmatique.
Parce que, voilà, c'est pragmatique, c'est-à-dire que le principe, c'est que la magie, effectivement, est très puissante, mais ça ne peut pas supprimer l'intégralité des points faibles de la personne qui le pratique. Si ce n'est pas des points faibles physiques, c'est-à-dire l'approcher de près ou de loin, l'assassiner, ça peut être une approche psychologique, le faire craquer, s'attaquer à ses proches ou à son peuple ou taper dans les points faibles. Même le meilleur des mages, le plus puissant des mages, peut partir en vrille si on l'énerve suffisamment et du coup peut dévoiler d'autres points faibles.
Tout match à sa kryptonite.
C'est exactement. Ça que... Je pars du principe que sinon, effectivement, c'est l'équivalent d'un dieu et c'est quand même beaucoup plus difficile à buter, donc c'est moins drôle. Donc, je pars du principe que la magie vient avec une contrepartie. Dans le cas des sorcières grises, par exemple, la contrepartie de base, c'est que elles ont, en plus des règles obligatoires de consommer de la drogue, d'être vierge, etc., c'est qu'elles pratiquent une forme de magie qui les affaiblit. C'est-à-dire qu'en gros, les effets qu'elles produisent sont puissants, mais corporellement, elles sont obligées de cracher du sang, elles sont obligées de perdre du sang au niveau de diverses blessures, et elles perdent en puissance physique ce qu'elles gagnent en puissance spirituelle. Et il faut, enfin, à mon avis, dans une bonne fantasy, à mon sens, c'est laisser la possibilité au mage de pouvoir être faible.
Je me demandais, ça se passe comment pour elles quand elles ont leurs règles?
Le pragmatisme, l'auteur.
Alors, j'ai jamais pensé, mais je vais me pencher là-dessus.
C'est bizarre. C'est bizarre qu'il n'y ait jamais pensé.
C'est vachement intéressant, ça. J'ai envie de faire quelque chose.
Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a une série qui s'appelle la trilogie des joyaux noirs, où justement les sorcières sont les sorcières du sang. Et elles sont super puissantes et justement au moment de leurs règles, toute leur capacité magique disparaît. Et d'où la nécessité d'être entourée de certains warlords, de princes guerriers, parce que sinon elles n'en auraient pas besoin. Mais comme elles sont plus faibles à ce moment-là, voilà. Si vous avez jamais lu la trilogie des Joyaux Noirs, c'est aussi un truc bien intéressant avec une magie. Plus vous êtes sombre et plus fort vous êtes. Et ça, c'est balèze. Vous avez compris que je penche du côté du mal automatiquement.
Tu es une cite.
Pas du tout.
Mince. Mon identité secrète est donc dévoilée. Voilà. Bon, est-ce que on a vu... Donc pour ce qui est de la tricherie, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'ai une réponse. C'est le mot kryptonite qui me l'a rappelé. Ouais. C'est que mes mages, ils ont un gros point faible, c'est le plomb. Et on peut les enchaîner de plomb. Le plomb est pour eux le métal infâme par excellence, car il absorbe leur pouvoir magique, il absorbe le drac. Et donc, un mage qui est enchaîné de plomb, c'est peanuts, quoi. S'il n'a pas fait un minimum d'entraînement physique, c'est la carpette, vous pouvez l'égorger, il n'y a pas de problème.
Je pense immédiatement, ça va te mettre un peu de plomb dans la tête.
Là, quelque part.
Ça prend un autre sens.
Non, mais là, c'est un autre sens. Ouais.
Et chez vous, Cindy, qu'en est-il de la...
Ouh.
Un magicien, un mage.
Mais en fait, ça va être un petit peu le même principe, puisque je pense qu'on s'est un petit peu toutes les deux basées en fait sur ce qui existe en fait en légende traditionnelle. Ouais. Ça veut dire que comme moi, j'exploite donc le monde des féeries. Voilà, c'est courant. Bien entendu, aucun n'est surpuissant et ils ont tous des points faibles, et dont l'un d'entre eux est bien sûr le fer. Voilà. Ce qui va être surtout intéressant de voir, et c'est ce que j'exploite du moins dans le premier tome, c'est que nous avons donc des fées qui se confrontent aux hommes, bien entendu, qui ignorent leurs points faibles, mais qui vont chercher justement le moyen de le savoir, et des hommes, bien entendu, qui, eux, non seulement n'ont aucun point faible concernant le fer, mais qui, bien entendu, le manipulent au quotidien. Donc c'était vraiment très intéressant aussi de voir cette lutte entre des gens qui sont totalement dépourvus de magie, mais qui ont le moyen quand même de neutraliser les créatures qui sont super puissantes, mais qui, eux, ont certains points faibles. Voilà.
Alors, une question plus pragmatique. Je le dis souvent, on sait tous écrire, mais on est loin d'être tous des auteurs. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis pas. Est-ce que votre don pour l'écriture, est-ce que c'est un peu de la magie ?
Complètement.
Ah, donc Nathalie ne vous révélera aucun de ses secrets.
Ben non, puisque chez moi, la magie n'est pas secrète.
C'est vrai. Cindy, est-ce que ça, c'est un don ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille ? Est-ce que vous iriez dans la maison des mages d'Adrien pour en savoir plus ? Non.
Désolée, Adrien. Tu m'en voudras pas, hein. Je dirais non. Non, mais moi, je dis souvent...
Est-ce que c'est pour la drogue ou pour la virginité ?
Je vais prendre les deux. Non, mais je dis souvent, en fait, en interview, quand on me dit ça, que j'ai une muse dans la tête, ce qui est vrai. Désolée si ça paraît schizophrène. Désolée. Mais voilà, c'est vrai que ça souffle souvent des idées et que, bien entendu, quelque part, je me dis, je me dois de l'écrire, quoi. C'est même pas est-ce que je peux ? C'est vraiment, je dois. Maintenant, pour ce qui est de l'écriture, je dirais que c'est un peu comme la magie, en fait. C'est 1% de dons et 99% de travail.
Pierre, Adrien, est-ce que vous êtes des mages qui s'ignorent ou des mages secrets ?
Alors, le côté du le pouvoir des mots, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que ne serait-ce que dans le style d'écriture, moi je sais que dans Blizzard j'ai essayé de faire tous les passages qui sont dans le froid dans le Blizzard, ça va être des passages extrêmement des phrases extrêmement courtes, un truc assez simple, une écriture assez simple pour participer à cette virginité, en fait,
à cette froideur
exactement. Qui peut donner un aspect un peu rude, un peu aride. Et quand on arrive dans le deuxième tome, vous avez des passages qui reviennent 15 ans avant, quand il faisait encore bon, quoi, voilà, quand il y avait un climat normal, l'écriture est beaucoup plus lente et beaucoup plus... comme
poisonnante.
Si... Oui, oui, c'est ça. Mmh. Et on a vraiment plus... quand tout ce qui est effectivement le passage dans le froid, ça va vite, c'est rapide. Ça brise, quoi, c'est glacé. Et oui, quand on est dans le chaud, on a vraiment envie de prendre son temps. On est quand même plus dans un ordre. Donc pour moi, il y a vraiment un pouvoir des mots aussi, aussi bien sur la symbolique que carrément sur le style, en fait.
Adrien, mage secret, évidemment.
Moi, je suis un peu d'accord à la fois avec Cindy et à la fois avec Pierre sur le fait que les mots ont un pouvoir, un véritable pouvoir. Et effectivement, les employer de telle ou telle manière peut amener à penser des choses, peut amener à ressentir des choses, peut amener à avoir des actions ou à imaginer d'autres événements. Et je trouve ça très intéressant de considérer comme un vrai pouvoir qui est difficilement, à mon avis, explicable, donc du coup qui s'apparente à de la magie. Mais je suis aussi d'accord sur le fait que le talent, c'est un joli mot fourre-tout pour faire croire qu'on est élu, qu'on a été touché par la grâce divine et que forcément, du coup, on sait écrire. Alors que ça demande quand même énormément de travail, que c'est un boulot d'écrire, c'est pas uniquement je suis inspiré par...
Le vent n'est pas d'accord.
Enfin, j'aime bien le principe de la muse parce qu'effectivement on a une inspiration qui existe, mais qui est aussi issue de toutes nos expériences, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a réfléchi, de tout ce qu'on a pensé. Et donc du coup ça reste de cultiver un talent, c'est pas l'avoir comme ça au premier abord. Pour moi, il y a le dessinateur Boulet qui a dit une fois qu'il n'y a pas de gens qui se mettent à dessiner, il n'y a que des gens qui n'arrêtent jamais. Et c'est un peu pareil, à mon avis, pour l'écriture. Il y a ceux qui se racontent des histoires avec leur petite sœur en jouant au Playmobil, et puis il y a ceux qui n'arrêtent jamais ça. Et moi, je pense que j'ai jamais arrêté. J'ai continué à me raconter des histoires, à en raconter aux autres et à avoir finalement envie de les coucher sur le papier. Et c'est juste une envie que j'ai poursuivie.
Ressortez vos Legos.
Je peux rajouter quelque chose, plus sérieusement. J'ai pas compris du tout ta question de la même façon que mes camarades.
C'est bien.
Voilà. Pour moi, les mots sont magiques. Hein, au commencement était le verbe. Hein, c'est un très beau livre de fantasy au début. Hein. Et en même temps, si on prend par exemple le Termer d'Ursula Le Guin. Les mots ont un pouvoir. Si on connaît le vrai nom de quelque chose, on a un pouvoir sur lui. J'ai ça dans mon monde avec les noms de conscience qui sont le vrai nom des âmes des gens, Et si on connaît le nom de l'âme de quelqu'un, on peut le manipuler, même si on n'est pas magicien soi-même, enfin, si on n'a pas de drague soi-même. Et c'est dans ce sens-là, un écrivain, son pouvoir magique, c'est de connaître le sens des mots et de savoir les employer à bon escient, même en mettant parfois plusieurs niveaux de sens, en utilisant plusieurs niveaux de sens en même temps. Et bien sûr qu'il y a du travail, je n'ai jamais nié qu'il y avait du travail, mais c'est notre pouvoir, c'est notre talent que de comprendre les mots.
Voilà. Vous êtes des créateurs de formules.
Je sais pas, je nous vois plutôt
magique,
comme,
bien sûr.
Comme des peintres qui, eux, ils vont utiliser une palette de couleurs et nous, d'un texte à l'autre, ça va pas être la même palette de vocabulaire dans laquelle je vais aller puiser pour composer mon histoire. Voilà, c'est, en musique, il n'y a que 7 notes plus les dièses et les bémols, et pourtant on fait une infinité de musique avec. Et ben nous, nos notes, c'est les mots. Et avec ça, on peint, on compose de la musique et on écrit des histoires. Voilà.
Bien. Est-ce que pour terminer, vous nous diriez chacun quel est pour vous le mage qui vous inspire ? Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'il y a un autre univers dont la magie vous semble aussi importante que celle que vous portez en vous avec les mots, comme vient de le dire Nathalie ? Ah, j'aurais dû vous demander de réfléchir avant. Adrien, Pierre, une idée ? Oui, je pose des cols. Moi aussi, j'ai de la magie.
Un seul, pour moi, il n'y en a pas qu'un. Pour moi, Blizzard, c'est un roman un peu hommage. Donc, il y a une multitude de références, de clins d'œil dans ce bouquin. Donc, ouais, je pourrais en citer plein, quoi. Donc, celui qui me faisait plus rire, c'est tout simplement le maître Jedi qu'on va retrouver effectivement dans Blizzard. On a souvent ça. Mais je parlais des super-héros tout à l'heure.
Plutôt genre Yoda ou plutôt genre Obi-Wan ?
Parce que c'est plutôt Obi-Wan.
Moi, je suis Obi-Wan, Yoda, je suis pas sûr.
Mais moi, en fait, il y a tout, même plein de personnages, donc de super-héros, de mangas, on peut retrouver plein de références. Donc, ouais, pour moi, il n'y en a pas qu'un, mais c'est une multitude. C'est tous ceux que j'ai lus quand j'étais plus jeune et qui m'ont fait vibrer, que j'ai essayé de reprendre. Quoi. Même Dragon Ball, on retrouve même des trucs comme ça dans Blizzard, c'est caché, on ne le voit pas. Mais moi,
je croyais que c'était que Adrien pour les boules de feu.
Non, c'est plus même, il voltige à quelques mètres de hauteur. Non, on les retrouve quand même.
Alors Adrien, bon, éliminons la boule de feu. Alors,
pour moi, les premiers mages que j'ai vraiment repéré, c'est mes premiers pas dans la fantasy et le fantastique. C'est Belgarath et Baba Yaga. Voilà. Donc Belgarath. Le sorcier,
la Belgariade de David Eddings.
Du coup, voilà, donc ils sont lui, sa fille, tous ses copains qui pratiquent la magie, qui utilisent effectivement le verbe à l'origine, le verbe et le vouloir qui sont les bases de la magie. Ça m'a beaucoup inspiré sur les fonctionnements magiques. Et Baba Yaga qui est dans le bouquin Enchantement d'Orson Scott Card, qui est plus ou moins celle qui m'a donné envie d'apprendre plus sur la magie, parce que c'est beaucoup de rituels aussi. Les rituels, c'est vachement intéressant de savoir qu'est-ce qui veut dire quoi, pourquoi ils utilisent tel ou tel ingrédient, telle ou telle formule, pourquoi tel jour ou tel autre est important, etc.
Vous avez des bougies et du sel, des pentacles chez vous, c'est ça ?
Non, mais non. Je pense que ma copine serait moyennement d'accord, mais...
C'est à cause des coques égorgées.
Oui, c'est ça. Elle n'est pas très tolérante à ce niveau-là.
Cindy ?
Moi, je vais rendre surtout hommage, en fait, peut-être aux magiciennes aussi, aux femmes que j'ai découvertes, aux beaux personnages féminins que j'ai découvertes dans les contes et légendes. Surtout, en fait, quand elles sont débarrassées de leur vernis rose bonbon Disney. Sorry pour les fans dans l'assistance. Mais c'est vrai que j'ai découvert des personnages tout à fait ambivalents, aussi bien quelqu'un qui ont des faiblesses, mais aussi quelqu'un qui ont des forces. Et surtout, je les respecte parce qu'elles n'hésitent pas à prendre leur destin en main. Et c'est quelque chose qui, tout au long des siècles et même à notre temps présent, doit être salué.
Bravo. Nathalie ?
Moi-même. Ma première rencontre avec la magie, elle a probablement laissé des traces en moi, c'est l'enfant Merlin dans l'épisode avec Vortigern. Après, il y a eu il est pas magicien et pourtant il a des pouvoirs. C'est Gabriel Marpa dans la bande dessinée de Bassi Jodorowsky, Le Lama Blanc. Et il y a le chamanisme. Voilà.
À pratiquer au quotidien.
Ben, moi, je pratique le chant chamanique et le tambour chamanique à des fins thérapeutiques. Mmh. Bon, ça ne me guérira pas, mais ça m'aide à supporter la souffrance. Voilà.
Eh bien, merci à vous. Je pense qu'on a donné envie à tout le monde de découvrir vos mages et vos magiciens, qu'ils soient en faveur du bien ou en faveur du mal, à chacun de le découvrir selon vos univers. Merci à vous quatre.
Merci beaucoup.
Merci. Et encore désolé pour le retard.